Canalem, on aime l'été.
Ici Kevin Breton.
Je pense que tu veux que je dise Luc Fortin.
S'il vous plaît, oui.
Bonjour Maurice Bolduc.
Oui, bonjour.
Maurice, il est vraiment sa coche, hein, c'est fou. Tu sais, t'as Mathieu, t'as Jean-Sébastien qui sont plus lousses, puis t'as Maurice qui est à la seconde. Je suis certain que lui, quand il se rase, il n'y a pas un poil qui reste.
C'est très relatif.
Merci Luc pour ce beau mot de bienvenue. Tu envoies des compliments à ton metteur en onde, mais pas à ton co-animateur.
Je sais pas comment tu te rends.
Est-ce que je dois interpréter? Vu que c'est l'été, je me laisse lousse. Je fais un peu comme Mathieu puis Jean-Sébastien. Okay. Je me laisse pousser la moustache, je me laisse pousser la barbe. Quoique Jean-Sébastien puis Mathieu sont pas très barbus. Trêve de parler de pilosité.
Kevin, tu sais que d'habitude je suis là les lundis. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que t'es là.
Ah, oh, c'est pour pouvoir co-animer avec moi. Ça me fait grand plaisir de partager le micro avec
ça,
toi plutôt qu'avec
ça.
Clotilde aujourd'hui. Une émission bien chargée. Notre chercheuse Anne-Laure a fait un excellent travail pour nous dénicher plusieurs sujets. On va notamment parler d'une découverte sur les cellules souches qu'on serait capable de multiplier, comme on multipliait à l'époque le pain. Maintenant, nos scientifiques aujourd'hui multiplient les cellules souches et c'est un grand potentiel thérapeutique pour de nombreuses maladies. On va aussi parler d'agriculture urbaine. On va parler d'un service de bibliothécaire à domicile pour les gens qui ont de la difficulté à sortir de chez eux.
Puis on est vraiment sur la coche, on suit l'actualité, c'est un service qui a 35 ans.
Mais on souligne les 35 ans d'anniversaire, puis c'est toujours bon de le rappeler. On va aussi parler d'un nouveau programme, parce que tu veux qu'on parle d'actualité, Luc, d'INCA qui vient d'être lancé sur l'employabilité. On va aller en musique, puis après, Luc, est-ce que tu aimerais que je te parle un petit peu de la LNH?
En tout cas, moi, je te parlerai de John Tavares.
OK, ben, peut-être que ce sera pas juste Tavares, là, mais on vous allez bien voir.
Rosy aime les garçons qui ont du fric, sans passion ni pudeur mais sans malice. Rosy ne frissonne que pour le chic, Chanel, Dior, Hermès, c'est romantique.
Thank you.
aime l'été, on entendait Valérie Carpentier, Rosie.
Je trouve un peu paresseux, Kevin, parce que tu m'as écrit cette semaine pour me demander de faire du travail. Je pense que tu voulais que je te dise le prix du chandail de John Tavares.
C'est étrange, là, comme requête.
Maintenant, membre des Maple Leafs. Alors, c'est 190 $.
Ben, je suis content de savoir que tu as pu identifier le prix.
Mais ce que je veux te dire, c'est 250 pour un chandail de Plekanec, de Donald Dufresne ou de Turner Stevenson. Comment ça fait que le Canadien, c'est 60 $ de plus que John Tavares?
Parce que je te dirais que le plan d'affaires des Canadiens, on dirait qu'il s'est comme pas harmonisé avec les insuccès de l'équipe des dernières années. On vogue encore sur les succès passés puis sur la nostalgie. Puis coudonc, on continue de payer cher pour aller voir les games. Ouais. Fait qu'il faut croire que... on est un méchant troupeau qui aime se payer cher pour la médiocrité. Hey, si tu me parles de ça, Luc, c'est pas pour rien. Là, c'est parce que je voulais que tu testes le site de la LNH avec une synthèse vocale pour savoir si c'était facile pour un internaute de naviguer quand on n'a pas accès à la vue, là, évidemment, si c'est un internaute
aveugle.
Pour ceux
qui ne connaissent pas, oui.
Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle qui a fait jaser ces dernières semaines. En tout cas, moi, je suis tombé sur cette nouvelle-là sur Twitter. C'est la LNH qui est prise en cible par une poursuite judiciaire par un individu avec une perte de vision qui dit ne pas pouvoir naviguer sur la section shop, donc magasin, de la Ligue. Donc, l'objet porte spécifiquement sur cette catégorie-là, parce que le reste du site de la LNH, semble-t-il, fonctionne assez bien avec des synthèses vocales. On peut naviguer avec un clavier, mais pas la partie shop. Donc là, toi, tu me dis que tu as été capable de t'y retrouver sans plus de tracas qu'un autre site Internet?
En fait, ce que je te dis, c'est que j'ai pu voir la liste des produits disponibles. Maintenant, comme je ne suis pas super qualifié et que je ne voulais pas retrouver avec un produit, surtout un chandail des Maple Leafs, j'ai pas osé rentrer. C'est peut-être là que le bas blesse, parce que souvent, il y a des cases à cocher, des petites zones. Alors, peut-être que c'est là, je le sais pas. Peut-être aussi, des fois, on veut savoir si c'est un robot qui écrit.
Ouais.
Alors, c'est très visuel, cette partie-là, pour
les
une personne... Peut-être.
Ce qu'on appelle des CAPTCHA. Okay. Ouais, dans le fond, ce qu'on doit reproduire, une espèce de typographie, une calligraphie un petit peu funky pour voir effectivement si c'est pas un robot.
Ça, c'est un obstacle parfois.
Ouais. Enfin, peut-être que c'est là que ça a posé problème. L'internaute en question qui a posé la plainte, ben, en fait, il se base sur une loi qu'on connaît bien, toi puis moi, Luc, qui est l'ADA, mais juste pour le bénéfice de nos auditeurs qui la connaissent peut-être pas, c'est une loi qui a été votée en 1990 aux États-Unis par George Bush père, qui vise à protéger les droits des citoyens américains avec un handicap. Puis la loi, elle est très, très large. Puis depuis, on a eu recours à celle-ci des milliers et des milliers de fois dans le cadre de poursuites judiciaires. Des fois, c'est en raison d'inaccessibilité architecturale des entreprises, là, un commerce qui ne serait pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais ère numérique oblige. C'est de plus en plus des sites Internet qui sont pris pour cible. D'ailleurs, j'avais des chiffres là, ici. L'année dernière, seulement, il y a plus de 7000 plaintes qui ont été déposées, ce qui représente une augmentation de plus de 16%. On peut penser que c'est parce que il y a de plus en plus de gens qui utilisent Internet pour naviguer.
Mais moi, ce que je remarque, c'est que leur applic est colossal aux États-Unis. Tu sais, dans le sens, nous, on se plaint, on le dit, mais 7000 plaintes déposées.
Oui, ouais,
c'est que les gens sont revendicateurs.
C'est pas le même mode d'opération, on dirait, au Québec, parce que nous, on a, c'est sûr qu'on a la Charte des droits et libertés, mais on dirait qu'on y a moins recours, puis on dirait que pas qu'elle est moins efficace. Notre amie Christine m'entendait dire ça, qui est avocate, elle serait pas d'accord, mais on dirait que l'ADA, vu que c'est une structure qui est bien établie puis qui a fait ses preuves, mais peut-être que si on faisait la même chose avec la charte, ça créerait un précédent, puis après ça, on pourrait l'utiliser davantage. Mais toi, est-ce que tu penses que ce type de loi-là, ça peut mener à des débordements? Parce que moi, j'étais sur un forum de hockey après, puis j'étais estomaqué de voir la réaction des gens qui étaient convaincus que c'était juste une vache à lait pour des organismes qui supposément défendent les droits des personnes handicapées, mais qui utilisaient ça en fait pour se remplir les poches. Penses-tu que ça peut mener à ce genre de débordement-là?
Ben, je pense que toute structure va avoir des gens qui vont tenter d'en profiter et de presser le citron au maximum. Maintenant, je pense que les effets positifs vont largement compenser pour les quelques effets négatifs.
Oui, absolument. Je pense qu'il faut faire confiance aussi au juge puis à la cour qui doit décider en fait si la plainte déposée est légitime.
Et surtout,
non.
C'est qu'une plainte, excuse-moi Kevin,
oui, vas-y.
Une plainte, même si supposons il y a des avocats qui se font des sous avec ça, va faire en sorte que d'autres vont vouloir prévenir des plaintes et vont tout de suite, si on prend le site web, le construire de façon accessible. Alors, même s'il y en a deux, trois qui se font de l'argent, imaginez l'impact que ça peut avoir en amont.
C'est incroyable, puis c'est pas... Ben, juste pour vous dire, c'est pas la première fois que ça se produit dans le monde du sport. Là, il y a un cas semblable qui avait fait beaucoup jaser en 2015. Robert Jaouda, qui est un citoyen américain aveugle, qui avait porté plainte contre la NBA pour l'inaccessibilité de son site qui respectait pas certains standards. Et depuis, comme tu le dis, ben, la Ligue a fait beaucoup de progrès. Donc, ça sert vraiment de chien de garde. Puis souvent, ça permet de construire en amont des sites accessibles. Mais parmi les détracteurs là, de ces décisions-là, parce que quand cette plainte-là était en cours, il y a 7 personnes qui avaient voté en faveur du citoyen, 2 en sa défaveur, puis on a interviewé après ça l'une des 2 personnes sur le jury qui était contre, puis qui disait ça ouvre la porte à des débordements du genre est-ce qu'on va se retrouver, par exemple, dans un cas d'une ligue de baseball mineure où on va utiliser l'ADA pour dire, ben moi, mon fils, il a un trouble d'attention, il est autiste, ça lui prend 25% plus de chances pour avoir les mêmes succès que les autres, donc on va lui donner 4 prises au baseball plutôt que 3 prises. C'est ce genre de débordement qu'on crée qui allait se produire dans le monde du sport.
Oui, ça, c'est plus au niveau, disons, du comment interagir, c'est ça, mm-hmm. comment interagir en société. Je pense que chaque implication citoyenne, il y a la pratique, il y a la consultation, il y a l'information, doit être interprétée différemment. Mm-hmm. Ce que je constate, par contre, parce que je lisais certaines notes reçues de Anne-Laure, c'est... Le baseball majeur, si je me souviens, c'est en 2010 qu'ils auraient vraiment... qu'ils se seraient mis à la page.
Ouais.
Puis même avant, là, pour certains aspects de diffusion. Mais il y en a d'autres qui attendent les plaintes.
Ouais.
C'est ça qui est dommage. C'est que pourquoi la NBA a attendu à 2015?
Mm-hmm.
On dirait qu'on se dit, tant que personne chiale, on n'est pas obligé de bouger.
Puis tu sais que tu vas te faire taper ses doigts si tu fais ça, tu sais.
Oui, oui.
Pas une décision d'affaires. Comme effectivement, t'es mieux de prendre les taureaux par les cornes puis procéder le plus rapidement possible.
Surtout si tu fais une pub puis une promo en disant nous, on veut que tout le monde trippe sur notre sport.
Ben oui, la LNH fait ça avec sa thématique, l'initiative Hockey is for Everyone. Là, on avait vu, on avait invité notamment les Hiboux de Montréal, une équipe de hockey sonore à pratiquer à jouer une partie lors d'un entraque des matchs des Canadiens. Puis pourtant, sur le site de la LNH, j'ai pas trouvé sur leur site facilement naviguant un onglet inclusion ou diversité, alors qu'on en a retrouvé facilement sur les sites de la NFL, de la NBA et de la MLB en quelques recherches Google. Puis moi, je trouve ça étonnant. Puis même en cherchant accessibilité ou inclusion LNH sur Google, les pages que je trouvais, je tombais sur les sites des Maple Leafs ou des Sénateurs. Parce que eux, évidemment, ils ont aussi une loi semblable. Là,
en Ontario, c'est vrai.
Mais pourtant, les États-Unis ont aussi une loi semblable, puis leur siège social est aux États-Unis. Donc, c'est comme... J'étais étonné de voir qu'il n'y avait pas d'onglet dédié à l'inclusion de leur sport ou à l'ouverture de leur sport sur un public avec un handicap.
On peut souhaiter que ça change parce que, comme tu sais, le baseball majeur maintenant, ou du moins les sous-contractants qui mettent en ligne le contenu du baseball majeur est maintenant, depuis quoi, un an et demi, je pense, responsable du contenu web de la Ligue nationale de hockey.
Exact, oui. Ça peut peut-être faire un effet ricochet sur le site de la NHL.
Parce que l'application audio est très, très bien.
Oui, ouais. Ben, je vous invite là, pour voir d'autres bonnes pratiques comme celle-ci, Luc, à visiter la page de visivoix.com, la page de notre émission aujourd'hui. Il y a un lien sur des bonnes pratiques qui ont été faites sur les sites puis là, sur les plateformes numériques des ligues sportives. Qu'est-ce qui a été fait de bien pour soit les spectateurs aveugles ou sourds pour accéder au contenu numérique de nos sites. Une belle discussion, ça, Luc?
Ça m'a fait plaisir. On aime le sport tous les deux.
On s'en va en musique.
Je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Je vais rester tranquille, je vais payer mes billes. M'en va apprendre l'anglais, m'en l'apprendre pour de vrai. Je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Je vais mettre mes bobettes, je vais lire la gazette. Je vais checker les sports, je vais compter les morts. M'a passé mon check-up, m'en va faire mon ketchup. On va voir ce qu'on va voir. M'a me forcer en soir. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a avoir l'esprit d'équipe, impliquer toute l'équipe. M'a cramper en masse, m'a me tailler une place. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a gravir les échelons, m'a comprendre mon patron, m'a faire semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop, mais c'est aidé. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand je vais être un bon gars, m'en va les inviter, m'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, amène-en mon amène. Maman déboucher une fois n'est pas coutume. Voilà, tout le monde va se mettre. Tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TPK, IBM, TPS, PME, PDG, OCQ, OLP, IGA. Et moi, si mon bord m'a tombé dans le fort. À 11h15, m'a écrit CDA, m'a sauté dans mon char, m'a descendu à Val d'Or. Bon, ben là, ça va faire. Dans l'enfer, m'a flambé ma paye, m'a allé vendre des bouteilles, m'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal, m'a viré sur le top, pas de cadran, pas de capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front, elle va dire enfin un bon gars. Après ça, je vais être un bon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. Rester tranquille, m'a payer mes billes. M'en va apprendre l'anglais, m'en l'apprendre pour de vrai. Oh, sports, math and blood. Ils vont m'aimer en érode. Excellent citoyen, pas parfait mais pas loin. M'en manger du poisson, m'en faire du ski de fond. M'en m'acheter des records de Michel Rivard. M'en faire rassemblant, c'est intéressant. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac.
Canal M, Mathieu nous revisitait le bon gars.
Rivard avait été blessé, hein? Quand
Pardon?
Desjardins avait... Rivard avait été blessé.
Tu veux dire émotivement, là?
Oui. Ah, quand oui. Quand il a dit, tu sais, je vais écouter des records de Michel Rivard, je vais faire semblant que c'est intéressant.
Ah oh, ouais, ben j'imagine, ouais. Hein?
C'est pour ça qu'en spectacle, il parle de Daniel Bélanger maintenant.
Il a changé pour Daniel Bélanger. Peut-être qu'il y a eu un accord tacite avec Daniel qu'il peut. Ou alors c'est dit sarcastiquement parce qu'on aime tous les CD de Daniel Bélanger.
Ben ouais, ben.
C'est impossible de ne pas l'aimer. De retour à M l'été, on va rejoindre au bout du fil. On est très content. Chercheur principal et directrice de la chimie médicinale de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, également professeur associé au département de chimie de l'Université de Montréal, Anne Marinier. Je suis bien content d'avoir son titre au long écrit sous les yeux pour pouvoir le dire au complet. Bonjour, Madame Marinier.
Bonjour.
Anne Marinier, est-ce que vous aimez Daniel Bélanger?
Ah oui, ben oui, j'aime beaucoup Daniel Bélanger, j'aime beaucoup Michel Rivard aussi.
Okay.
Ça confirme notre thèse.
On fait partie du même groupe. Anne Marinier, bon, vous travaillez, vous avez étudié et même tenté le coup pour aider les patients de cancer avec l'utilisation de cellules souches. Quel type de cancer d'abord?
Ben en fait, c'est les cancers du sang. La molécule qu'on a trouvée multiplie les cellules souches du sang, essentiellement.
La UM171.
Oui, donc okay. Alors ça va être de la leucémie, lymphome, myélome multiple, etc.
Bon, je remarquais dans les statistiques que au départ, il semblerait que, disons, dans d'autres protocoles ou d'autres tentatives, on pouvait perdre jusqu'à 30% des patients. Et semble-t-il que vous voyez que 5% de décès, bien sûr, pour ces familles-là, c'est tragique, mais c'est quand même une amélioration de 25%. Là.
Oui, en fait, lorsqu'on fait une greffe de cellules souches, une transplantation de cellules souches, la mortalité due à la procédure elle-même est d'environ 30%, entre autres quand on utilise le sang de cordon comme source de cellules souches. Nous, ce qu'on fait, donc la molécule va multiplier les cellules souches dans le sang de cordon et il semble qu'elle améliore, elle a des bénéfices cliniques assez importants, évidemment, et donc qu'elle améliore le taux de survie à 5%. En fait, on a eu un patient seulement qui est décédé. Mais évidemment, ça a été fait seulement sur 25 patients. L'étude clinique était sur 25 patients. Maintenant, il va falloir la faire sur un plus grand nombre de patients, évidemment. Mais c'est très, très, très encourageant, effectivement.
Est-ce que j'entends une surprise de la part des chercheurs ou c'est quelque chose... Bon, on le souhaite, mais disons, on pouvait peut-être pas le présumer.
Ben, vous avez un petit peu raison. Évidemment, la raison pour laquelle on a pensé, en fait, c'est vraiment le docteur Guy Sauvageau qui a eu l'idée. En fait, le docteur Guy Sauvageau a consacré une grande partie de sa carrière à étudier la multiplication des cellules souches. Puis en 2011, il a eu l'idée il s'est dit, je vais essayer de tester une collection de molécules qu'on a à l'IRIC pour voir si ces petites molécules-là pourraient pas améliorer la multiplication des cellules souches, parce qu'en fait, une des sources de cellules souches lorsqu'on fait une transplantation, c'est le sang de cordon. Mm-hmm. Et le sang de cordon, l'avantage, il a certains avantages, mais par contre, il a le désavantage d'avoir très peu de cellules souches, et ce qui fait qu'on l'utilise surtout plus pour les enfants. Et donc, pour un adulte, c'est un petit peu moins intéressant. Et comme il y a moins de cellules souches, la greffe prend moins rapidement, il y a des risques d'avoir des infection et donc c'était moins intéressant. Par contre, l'avantage du sang de cordon, c'est qu'il y a moins de maladies secondaires, en tout cas d'un risque qui arrive lorsqu'on fait une transplantation qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte. Alors donc, il y avait des avantages au sang de cordon, il y avait des désavantages. Le désavantage, c'était le nombre de cellules souches et donc si on pouvait les multiplier, on pourrait bénéficier des avantages du sang de cordon.
C'est là que
Par contre, là, ce qu'on voit avec l'étude clinique, c'est que ça va au-delà de nos attentes et on pense qu'il y a probablement, la molécule a probablement un effet additionnel qui est plus immuno-onco, là, qu'on appelle et qu'on est en train d'investiguer présentement.
C'est là que vous et votre équipe êtes intervenus, mais est-ce que ça nous paraît un peu magique pour nous de multiplier les cellules souches? J'imagine que c'est très complexe comme opération, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes parvenus à arriver à multiplier des cellules souches?
Ben en fait, comme je vous le dis, c'était l'équipe du docteur Sauvageau qui a décidé de tester 5000 petites molécules sur du sang tout simplement. En fait, à l'IRIC, on a une collection de 130 000 molécules que l'on cribe régulièrement. Et ces molécules-là, ça sert de produit de départ à la découverte d'un nouveau médicament. Nous, les chimistes, on a besoin d'un point de départ et ensuite, on modifie la structure pour avoir l'activité qu'on a. Alors donc, on a choisi de ces 130 000 molécules-là, on en a choisi 5 000 que l'on a testées sur du sang. Et là, les résultats nous ont montré qu'il y en avait une de celles-là qui s'appelait le UM729 qui se démarquait carrément et qui montrait qu'elle avait un potentiel pour multiplier les cellules souches. Alors, ça a été vraiment juste de regarder, de tester des molécules et de regarder si elles pouvaient multiplier les cellules souches. On a des marqueurs qui nous disent si les cellules qu'on multiplie sont des cellules souches ou d'autres types de cellules. Alors donc, on est parti. Ensuite, mon équipe, les chimistes, sont partis de la structure chimique du UM729 et ils l'ont modifié en synthétisant différentes autres molécules qu'on appelle des analogues pour essayer d'améliorer encore plus son activité. Et puis après en avoir synthétisé 400 nouvelles molécules, qui ressemblaient un peu au UM729, on a identifié le UM171 qui, elle, s'est avérée beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace que le UM729. Alors, c'est cette molécule-là qu'on a décidé de développer.
Moi, je suis curieux. C'est une question très, très, en fait, un peu inutile, mais je suis certain qu'on se la pose plusieurs d'entre nous. Des chercheurs comme vous, là, puis comme d'autres, on passe combien d'heures à trouver des choses inutiles pour finalement arriver un jour à dire « ça, je pense que ça peut servir à la race humaine ». Une vie?
En fait, c'est une bonne question. Je pense que vous me posez une question par rapport à la recherche fondamentale versus la recherche appliquée. Ben en fait, la recherche fondamentale, c'est essentiel. Il faut absolument... Effectivement, les chercheurs, des fois, on ne sait pas. On sait qu'on veut comprendre. Et ensuite, lorsqu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe et là, on peut essayer de trouver une solution. Et en fait, c'est exactement le modèle de Lyric. Lyric, son mandat, il se consacre à l'élucidation des mécanismes du cancer. Alors ça, c'est vraiment la recherche fondamentale où on se dit, on va essayer de comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on a trouvé une piste de solution, comment ça marche ensuite, il faut trouver, ben c'est pas une solution, mais comment on a trouvé comment ça marche, il faut trouver une solution et c'est ce que nous, on appelle le développement thérapeutique et c'est ce que mon équipe fait. Alors, je ne peux pas vous dire le pourcentage de ce qu'on cherche qui ne sert à rien, mais en général, ça sert toujours à quelque chose parce que ça amène une autre question et une autre question et finalement, on finit par comprendre.
Souvent, Marigny, on associe cancer et, traitement à radiothérapie, chimiothérapie. Est-ce que l'utilisation de cellules souches fait mal?
Fait mal? Non. En fait...
Est-ce qu'il y a des effets secondaires importants?
Ah oui, ben comme je vous disais, un des effets secondaires importants, c'est la maladie du greffon contre l'autre.
OK, OK.
Autrement dit, comme les cellules souches proviennent d'un donneur qui n'est pas soi, qui la plupart du temps, on peut avoir des transplantations quand ça provient de nos propres cellules souches, mais comme ça provient de quelqu'un qui n'est pas de soi, alors il va avoir une réaction de rejet. Et ça, c'est un effet secondaire assez important. Oui. Et d'où l'avantage d'utiliser le centre-cordon et d'où l'avantage de notre molécule qui semble aussi vraiment réduire cet effet secondaire-là.
Et d'où l'importance, justement, comme vous le dites, de multiplier parce que, de plus en plus, on sait qu'on peut mettre, ou en tout cas, prendre notre centre-cordon et peut-être le congeler pour utilisation future, mais ça ne veut pas dire que pour un adulte, c'est suffisant.
C'est exactement ça. C'est justement pas suffisant.
Tabarouette, j'ai compris.
Oui.
Hey, c'est fabuleux. Ça veut dire que vous êtes bonne vulgarisatrice.
Exactement, j'allais le dire. Puis, d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur cette découverte qui se fait ici à l'Université de Montréal, il y a un excellent article très bien vulgarisé du journaliste de la presse Philippe Mercure, donc dans la presse plus. On pourra mettre le lien sur notre site internet si vous avez envie d'en apprendre plus sur cette fascinante découverte. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui par téléphone, Mme Marinier.
Et lâchez pas, vous et votre équipe, on a besoin de vous.
Oui, merci beaucoup, ça me fait plaisir.
On s'en va très bientôt aux indicatifs de Aime la vie, de Aime l'été, dis-je plutôt. On sera de retour dans un instant. Il va notamment être question d'un service de INCA pour favoriser l'employabilité des personnes vivant avec une perte de vision. Ce sujet et bien d'autres dans un instant. Restez là.
Vous écoutez Aime l'été.
Deuxième tranche de ce... deuxième tiers-temps de Aime l'été de ce jeudi... C'est quoi? C'est le 2 août? Deux Stéphanie vont nous accompagner durant cette deuxième partie. L'une qui va parler de bouquins, particulièrement pour les Montréalais. L'autre pour les personnes qui ont un handicap visuel, de boulot. Et je suis très curieux parce que c'est un programme qui me semble ressembler à ce qu'offre Horizon Travail. Alors, ce sera l'une de mes questions. Mais d'abord, Lydia Kipinski sur Canal M.
Je pourrais te dire de potentiel. Je pourrais te dire Je pourrais te dire que tes parents seraient fiers de toi. Pas vrai dire, ils sont morts, ils te voient pas. Je pourrais te dire qu'un jour on aura un pays. À vrai dire, je pense qu'on n'en mérite même pas. Je pourrais te avec le trou dans ton ventre, le soleil reviendra entre tes jambes.
Apprendre à mentir, Lydia Kepinski.
On est effectivement le jeudi 2 août, Luc. Je t'entendais tantôt pas être certain
non,
de la
c'est vrai
date.
Que j'étais pas certain.
On est effectivement le 2 août. Et effectivement, c'est Lydia Kepinski qui nous mène au prochain segment de l'émission. Comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, Stéphanie Michaud.
Là, tu vas-tu nous dire des choses qu'on sait déjà jusqu'à la fin de l'émission?
Ça va être
comme
ça, jusqu'à 1h30. Je vais juste énumérer des faits.
Des choses qu'on sait, ça.
Stéphanie Michaud, qui est chef de programme chez INCA pour carrière et emploi. Elle est avec nous en studio. On est très heureux de la recevoir. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Notre chercheuse a cru bon vous inviter puisqu'elle est tombée sur la nouvelle de la création d'un nouveau programme qui vise à l'employabilité des personnes avec une perte de vision. Tout d'abord, peut-être pour nous dresser un petit tableau de l'état de la situation chez les personnes qui ont une perte de vision, c'est quoi les principaux obstacles qui nuisent à leur intégration sur le marché du travail?
C'est une très bonne question. Donc, je dirais les principaux obstacles, ça serait vraiment la technologie. Donc, une maîtrise plus ou moins suffisante pour la technologie. Heureusement, dans les dernières années, la technologie nous a beaucoup permis d'accéder au monde du travail, nous a beaucoup, je vais dire, sauvés. Je dis « nous » parce que pour le bénéfice des auditeurs, je vis moi-même avec une perte de vision. Donc, je m'inclus beaucoup dans le sujet. Donc, l'utilisation de l'ordinateur, des compétences technologiques, des fois un petit peu déficiente ou pas assez suffisante, je vous dirais que c'est le principal obstacle.
Peut-être la diplomation également, jusqu'à un certain point,
oui,
parce que pour les mêmes raisons, là, tu sais.
Oui, pour une même raison, oui, la diplomation ne peut pas nuire certainement à obtenir un emploi.
Ouais, puis j'en entends souvent parler, effectivement, comment les nombreuses applications peuvent être à notre portée puis nous aider tellement sur le marché du travail, mais aussi nécessairement, c'est un cercle vicieux parce que les applications viennent sur un téléphone qui coûte des sous, puis pour pouvoir acheter un téléphone, ben, il faut avoir un emploi en espérant qu'éventuellement, on puisse rendre accès au téléphone intelligent de la même manière qu'on rend accès, par exemple, aux télévisionneuses ou à d'autres outils de l'époque. Mais ça, c'est un autre sujet.
Oui, parce que je suis pas sûr que je suis d'accord.
T'es pas d'accord, là?
Non, je suis pas certain.
On en reparlera peut-être à la fin de l'émission si on a le temps. Stéphanie, peut-être le programme donc, qui a été lancé par INCA vise un peu à répondre à ce besoin-là. En quoi est-ce qu'il consiste exactement?
Eh bien, le programme Carrière et emploi, c'est un tout nouveau programme. Il a été lancé en juin dernier. Puis ce qu'on vise avec ce programme-là, c'est de permettre à nos clients de vraiment être mieux outillés pour obtenir un emploi. Donc, l'objectif, c'est de faire des sessions de groupe, par exemple, de donner des nouvelles compétences, des nouveaux concepts pour que la personne soit mieux outillée pour mieux se présenter, par exemple, pour mieux faire son curriculum vitae. Quand parler de sa déficience visuelle?
Un genre de coaching.
Un genre de coaching, mais plus de groupe.
Okay? Puis ça prend quelle forme? C'est sur des focus groupes en personne ou si ça peut être également par téléphone?
Pour le moment, comme c'est tout nouveau, on se consacre dans la grande région métropolitaine. Donc, c'est sur place. Des ateliers qui vont être offerts à nos bureaux sur Parthenay. Donc, mais éventuellement, probablement peut-être cet hiver ou au printemps, ça va être offert par téléconférence, okay. Donc offert dans les différentes régions.
Et vous excluez pas non plus les solutions numériques ou sur le web parce que vous avez créé un groupe Facebook même.
Oui, bien sûr. Donc, je veux amener la technologie, comme je disais là, d'emblée, un des obstacles, la technologie, donc apprendre à l'utiliser. Donc, c'est un moyen aussi d'aller chercher peut-être les jeunes qui sont plus à l'aise avec la technologie, donc d'aller les chercher, les connecter, puis de les titiller peut-être pour qu'il y ait un intérêt à venir.
Les challenger un peu peut-être.
Oui, à venir chez nous.
Stéphanie, est-ce que vous vous permettez de, disons, dire des choses que peut-être dans un service de développement d'employabilité plus généraliste, on ne dirait pas? Exemple, Luc, ce chandail-là, la semaine passée, quand je vous ai demandé « Habillez-vous pour la prochaine rencontre de façon à être représentatif de ce que vous porteriez en entrevue », ça, Luc, ça passe pas. Je pose la question parce que, des fois, on n'est pas nécessairement aussi au courant des codes qu'on pourrait ou on devrait l'être, et pourtant, on le sait que c'est le genre de truc qui est important.
Mm-hmm. Mais je suis très contente que tu me poses la question, Luc, parce que oui, c'est un des mandats d'INCA, on vise une clientèle aveugle, puis on va avoir un atelier complet sur justement le non-verbal. Donc, mm-hmm. comment notre non-verbal peut influencer. Donc, c'est pas parce que je ne vois pas que quand une personne me parle, je ne peux pas la regarder.
Mm-hmm.
Et un autre atelier complet sur justement le code vestimentaire. Comment on peut avoir accès à l'entreprise, son code vestimentaire? Il y a des astuces, il y a des trucs qu'on peut faire. Et il y a des codes vestimentaires d'emblée. Ouais. On peut se faire des petits kits d'entrevue mm-hmm. déjà préétablis mm-hmm. pour être bien présenté. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va dire.
Le technicien nous dit qu'il nous reste 2 minutes et demie. Je veux savoir la différence entre ce que vous proposez et ce qu'Horizon Travail propose, qui est un organisme qui s'occupe à peu près de la même population handicapée visuelle qui cherche de l'emploi.
Oui. En fait, nous, c'est beaucoup du collectif. On va faire des ateliers de groupe. Okay. On va les amener en groupe pour échanger aussi entre pairs. Et Horizon Travail va faire du coaching individuel, mmh, ouais. la recherche d'emploi, les contrats d'intégration au travail. C'est eux qui vont s'en occuper. Donc, on travaille ensemble avec nos clients.
Ouais, c'est un bon point qui t'emmène, Luc. Je pense que Horizon Travail, c'est plus de l'accompagnement individuel, à l'inverse de ce nouveau programme qui est davantage un accompagnement de groupe.
Je pense que c'est exactement oui. ce qu'elle vient
oui.
de dire.
Oui,
t'es encore dans ta lancée de...
J'aime ça résumer oui, les oui, choses. Oui. Moi,
Luc. J'aime le résumé, c'est bon.
C'est ça. Répéter les mêmes messages en marketing, c'est toujours une bonne chose. Je vais terminer avec des informations quand même précieuses que j'avais pu trouver sur le site d'INCA, que j'ai pas pu dire en introduction, mais quand on parle d'un portrait des difficultés à l'accès au marché de l'emploi pour les Canadiens qui ont une perte de vision, ben c'est 38% de taux d'emploi des Canadiens qui ont une perte de vision qui occupent un travail, contre 73% dans le cas des personnes qui sont non handicapées. Puis l'étude qui a été révélée démontrait également que 70% des Canadiens embaucheraient un candidat voyant plutôt qu'un candidat aveugle. C'est donc dire qu'il y a beaucoup de préjugés oui. et de mythes qui sont répandus. En terminant, Stéphanie, est-ce que vous faites aussi un travail pour travailler de l'autre côté de la clôture oui. auprès des employeurs?
Oui, donc on a deux volets, le volet participant qu'on a beaucoup élaboré et on a un volet entreprise. Donc, on veut aller cibler les grandes entreprises. On va se servir du fait qu'on est national pour justement aller cibler les grosses entreprises pour faire changer la mentalité des entreprises pour aider là, les personnes aveugles à obtenir un emploi.
Donc, c'est pour s'inscrire, on fonctionne comment?
Pour s'inscrire, on appelle directement à INCA, donc au 514-934-4622 pour la région de Montréal. Sinon, mm-hmm. on a toujours notre numéro 1-800-465-4622.
Mm-hmm.
Et mon numéro de poste pour s'inscrire ou avoir plus de détails, c'est le 226.
Avez-vous des groupes d'âge? Parce que, tu sais, les 28 ans puis les 55 ans vont peut-être pas se présenter de la même façon mm-hmm. et vont pas avoir la même confiance ou manque de confiance en eux.
C'est une très bonne question. Donc, tout dépendant du nombre d'inscriptions, okay. on va essayer de faire des groupes le plus homogènes possible pour justement prévoir quelqu'un qui veut retourner en emploi mais qui a déjà occupé un emploi versus un étudiant qui vient de sortir de l'école n'auront pas les mêmes besoins.
Oui, c'est ça. Là, je suis à la pige. Là, je suis comme sur la clôture entre en emploi et pas d'emploi. Alors,
le merveilleux
55
monde
ans,
des travailleurs autonomes. Ouais. Oui, puis on a plus le temps d'en parler, mais vous êtes aussi intéressé à connaître les gens qui ont un handicap visuel puis qui occupent un emploi pour monter une espèce de banque puis servir de faire la promotion des histoires à succès, en fait.
Exactement, puis aller voir nos employeurs puis leur dire, écoutez, ça fonctionne comme ça, donc allez défaire les préjugés qui existent.
Il y a un formulaire à remplir, on va le mettre évidemment sur notre site internet visevoix.com.
On est content que les sans-emploi vous donnent de l'emploi, Stéphanie.
Oui.
Tant mieux pour vous. Et effectivement, on s'inscrit donc du côté de INCA pour avoir des détails et peut-être trouver chaussures à son pied, surtout bâtir son estime de soi. On écoute qui, Maurice?
On va y aller avec Damien Robitaille.
Oh, on aime Damien Robitaille, puis ensuite on parle de bouquins.
Merci.
En me retirant, et comme ça, je suis devenu un grand. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Ooh, yeah. Condition héréditaire, ma famille, c'est une bande solitaire. Depuis plus de 5 générations, nous n'avons eu aucune réunion. Je fais tout, tout seul.
Robitaille, homme autonome.
Et dû pour du nouveau Damien.
C'est vrai, ça fait un petit bout qu'on n'a pas un nouvel album. Ouais, ouais. Toi, tu l'aimes beaucoup. Luc, tu sais que moi, j'écris beaucoup.
T'écris très bien.
Merci.
Et je te le dis même quand le micro est éteint.
C'est vrai, merci ouais. Luc. J'écris, mais des fois, je me sens un peu mal d'écrire parce que je lis très peu. Je ne suis pas un grand lecteur. Je m'en veux. Je sais que je devrais redonner aux gens qui me lisent puis lire à mon tour, mais je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a comme des barrières qui m'empêchent d'aller prendre un livre puis de consacrer du temps à la lecture. Toi, je sais que tu es quand même un lecteur assez... C'est disponible.
Oui, c'est ça, un régulier. D'ailleurs, j'ai relu un coup de cœur cet été et il est encore coup de cœur, 22-11-63, ou en anglais, c'est l'inverse à cause d'une
la date
de l'assassinat de John F. Kennedy. C'est Stephen King. C'est pas épouvante. C'est un gars qui voyage dans le temps pour essayer de contrecarrer l'assassinat de John F. Kennedy. C'est fabuleux.
Moi, ce que je trouve le plus fascinant là-dedans, c'est que ça n'avait pas été encore transporté au grand écran. On dirait que tous les livres de Stephen King ont été mis au cinéma.
Apparemment qu'il y a une série, ça aurait été, je ne sais plus trop, sur une plateforme, là, mais que je ne connais pas, mais semble-t-il qu'ils ont commencé.
Sûrement. Ouais, ouais. Si on vous parle de lecture aujourd'hui, ben, c'est vous parler d'abord du réseau des bibliothèques de Montréal, qui compte 45 bibliothèques dans 19 arrondissements. En 2022, il y a 8 nouveaux projets de bibliothèques et 26 bibliothèques qui vont être rénovées. Pour vous donner une idée de l'ampleur des choses, il y a 400 000 abonnés, dont 40 000 qui sont âgés de 65 ans et plus, majoritairement des femmes. Puis pour des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite, ça peut quand même représenter un obstacle de sortir de chez eux et de se rendre dans les bibliothèques. Il y a un service qui existe pour répondre aux besoins. Stéphanie Brazeau, qui est bibliothécaire dans la division des programmes et services aux arrondissements, est en studio pour nous en dire plus. Bonjour, Madame Brazeau.
Bonjour.
Stéphanie? 400 000, je trouve ça peu pour la taille de Montréal. Surtout que c'est gratuit s'abonner à la bibliothèque. Comment se fait-il qu'il y a juste 400 000 membres?
Oh là là, ça c'est une question...
Mais est-ce que des fois vous vous grattez la tête puis vous vous dites comment justement augmenter le membership?
Il y a plusieurs mesures qui sont prises. Des fois les usagers viennent en bibliothèque et finalement... À un certain moment, vont arrêter d'y aller. Je vais penser, mettons, aux jeunes, rendus ados, ils ne sont plus abonnés et ils vont, un peu plus tard, ils vont se réabonner ou là, ils ont les familles, ils vont tous se réabonner en famille. Donc, ça vient, ça va. Donc, voilà.
Puis parmi ces 400 000 abonnés, comme je le disais, il y en a 10 % 40 000 qui ont plus de 65 ans. Vous avez décidé de leur offrir un service pour répondre à un besoin. Comment est-ce que vous en êtes venu à constater que ces gens-là, c'était difficile pour eux de sortir chez eux puis aller se louer un bon livre?
Bon, moi, j'ai aucun mérite de
constatation.
C'est un programme, exactement. Moi, je suis bibliothécaire.
Oui, ça s'entend.
Donc, moi, je suis bibliothécaire pour le service qu'on appelle le bibliocourrier, qui en fait un service gratuit qui permet d'offrir aux gens, aux aînés et également aux gens à mobilité réduite, de recevoir chez eux gratuitement les livres par Poste Canada.
Livres et autres produits.
Et, oui, je devrais dire documents. Hein, donc, je vais en parler un petit peu. Je vais décrire tout ce qu'on offre. Donc, le bibliocourrier, on va fêter l'année prochaine les 35e
de l'existence.
Donc, c'est pas nouveau, puis c'est pas non plus le fait d'être à mobilité réduite et avoir certaines difficultés à se déplacer, c'est pas nouveau non plus. Donc, ça fait 35 ans qu'on est là, et le bibliocourrier, c'est ça. Pour être abonné à ce service-là, il faut être âgé soit de 65 ans et plus, ou être à mobilité réduite. Et dans ce cas-là, si on n'a pas 65 ans, on est plus jeune que ça, de fournir une attestation médicale là, pour montrer notre limitation physique, ou encore présenter la carte de membre d'un des organismes affiliés à Altergo. On est en partenariat beaucoup avec Altergo.
Mmh. Puis c'est pas juste un service d'envoi poste ou de mandat poste avec Poste Canada, parce que vous avez aussi un travail d'accompagnement ou un service d'accompagnement, je devrais plutôt dire, auprès des gens qui appellent, parce que ça fonctionne comme ça.
Oui.
On appelle et on peut prendre le temps de discuter avec un bibliothécaire qui va nous guider à travers l'offre de livres qui est disponible.
C'est ça. La clientèle a beaucoup changé, en fait, depuis... Bon, ça existe depuis 35 ans. Avant, il n'y avait pas toute l'informatique et tout ça. Donc, il fallait vraiment accompagner l'usager pour son choix de livre, donc des suggestions de lecture. Tout est noté. On a tout un fichier qui explique les goûts de lecture, qu'est-ce qu'on a lu avant et tout ça, donc, pour ne pas renvoyer le même livre. Donc, Historiquement, tout se faisait comme ça par téléphone. Maintenant, on a aussi Internet aussi là, qui permet de faire que l'usager est un peu plus autonome pour voir le catalogue en ligne, choisir ses documents en ligne via le site bibliomontréal.com.
Est-ce que le site aussi offre également une possibilité de trouver ses sites selon ses goûts? Est-ce qu'on peut faire des recherches, par exemple, par roman policier?
Ou... Oui, il y a des facettes. Donc, sur la page web, ça se trouve être à gauche, là, sur le site. Donc, il y a des facettes de sujets, donc, pour roman policier. Moi, pour faciliter le choix de mes usagers de bibliocourrier, sur la page de bibliocourrier, donc, quand on va dans bibliomontréal.com, à droite, il y a l'onglet bibliocourrier. Si on clique dessus, on va avoir tout le fonctionnement du service et on va également avoir des liens là, qu'on peut cliquer. Mettons, si je veux voir les livres audio, qu'est-ce qui est contenu dans la collection du bibliocourrier pour y accéder.
Ouais.
Mais c'est sûr que le catalogue permet d'avoir des facettes pour faire son choix de documents.
Stéphanie, bon, c'est un service bibliocourrier qui ressemble beaucoup à ce qu'offre le Service québécois du livre adapté à travers la province pour les gens qui ont de la difficulté, là, soit à cause d'un handicap visuel ou de dextérité. Par contre, au SQLA, de plus en plus, les livres, on peut les télécharger directement. Est-ce que c'est une option qui est également offerte dans votre programme?
Pas pour l'instant. Okay. Là, je pourrais pas m'avancer plus pour dire si c'est un service qui va arriver dans les bibliothèques de Montréal. Pour l'instant, le livre audio n'est pas téléchargeable, mais on peut les commander. Donc, dans le réseau des bibliothèques, on a plus de 7000 titres, autant en français qu'en anglais, avec une proportion un peu plus grande en français. Mm-hmm. Donc, on peut choisir le livre audio. Et si vous êtes membre du bibliocourrier, on vous l'envoie directement à domicile par Poste Canada, donc dans un sac scellé. Donc, c'est très sécuritaire. Tout est préadressé, préaffranchi. Donc, on change les adresses.
Puis, c'est pour une location de maximum de temps. Est-ce qu'il y a un maximum avant de retourner le livre pour les gens qui lisent, pas très rapidement comme moi?
Donc, le temps de prêt régulier est un peu prolongé, donc 4 semaines au lieu de 3. Donc ça
Parce que c'est l'été.
C'est à l'année. C'est vrai que les bibliothèques, oui, tout à fait. Les bibliothèques, des fois, ont des prêts d'été un peu plus longs, mais nous, c'est là 4 semaines à l'année. Et on est quand même assez flexible. On sait qu'il y a des délais, des fois, par la poste, ou des fois, c'est plus difficile, mettons, l'hiver, de retourner son livre. Ouais. Donc, on est assez flexible. On va faire un petit rappel de dire, pensez à retourner notre livre, mais il n'y a pas de frais aussi. Il y a quand même des avantages d'être avec un bibliocourrier pour notre clientèle. Il n'y a pas de frais non plus de retard parce qu'on est conscient qu'il y a des aléas de retour.
De la vie, de la météo parfois.
De la météo aussi, des problèmes de santé aussi.
Oui,
là,
bien
donc,
sûr. Puis en terminant, ben moi, un de mes plaisirs, on dirait que moi, quand j'étais jeune, je préférais aller à la bibliothèque que lire le livre en tant que tel, parce qu'une bibliothèque, c'est quelque chose d'apaisant puis d'impressionnant de voir toutes les rangées de livres. Il y a quand même une sérénité quand on entre dans une bibliothèque. Puis il y a quand même un service qui est également offert pour se rendre, un service de navette pour se rendre dans certaines bibliothèques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot en terminant?
OK. Ça, c'est pas tous les arrondissements qui l'offrent. Il y a Montréal-Nord qui a le service de navette hors qui permet, mais c'est vraiment plus pour les aînés, par contre. Donc, pour les services que je n'ai pas, téléphonez vos bibliothèques, vos bibliothèques de quartier pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui peut être offert. Il y a certains arrondissements qui offrent des services supplémentaires ou de l'accompagnement supplémentaire. Donc, on a 19 arrondissements, donc 19 réalités des fois.
Oui,
donc,
Des
fonctionnements internes. Je ne voudrais pas induire personne en erreur. Donc, juste téléphoner votre bibliothèque de quartier. Et on ne l'a pas mentionné, puis je trouve ça important. Bibliocourrier dans 11 des arrondissements. Puis je vous invite vraiment à regarder la page web du bibliocourrier pour savoir exactement où se trouve.
Mais pourquoi il y a 8 arrondissements qui se font tirer l'oreille?
Oh, ça, vous...
Encore là, c'est politique.
C'est le fonctionnement de
c'est quand même bizarre.
C'est le fonctionnement. Chacun des arrondissements, on a la ville-centre et on a les arrondissements qui sont quand même indépendants, qui peuvent ou non avoir les
ben, je m'affiche, je me porte en faux. Je trouve ça dommage que 8, c'est quand même beaucoup, là, 8 sur 19 n'offrent pas ce programme qui me semble tellement important parce que ceux qui aiment lire aiment lire. C'est un cliché, mais c'est vrai. Là. Ça fait partie de la vie de plusieurs.
Faut dire qu'ils ont, des fois des services qui sont similaires, un peu différents, qui ne sont pas le bibliocourrier, mais qui offrent quand même un service de livraison à domicile aussi, parfois avec des bénévoles ou tout ça. Donc, avec un fonctionnement...
Qui ne portent pas le même nom, mais qui offrent...
Exactement.
Une meilleure manière, c'est sûrement d'appeler à sa bibliothèque pour s'informer.
Appeler à la bibliothèque ou encore mieux, téléphoner directement au bibliocourrier. Donc, je vous donne le numéro, le 514-872-2901.
C'est bien gentil. Merci beaucoup, Stéphanie Brazeau, d'être venue aujourd'hui en studio.
Bien, merci, c'est un plaisir.
Vous écoutez Aime l'été.
Dans la suite de l'émission, aujourd'hui, on va s'entretenir un petit peu plus tard avec Karen Bouchard de la Fondation Québec Philanthrope. Écoutez, j'appelle ça une compagnie, mais c'est plus en fait un organisme qui a permis la remise de quelques 2,4 millions de dollars remis à 283 organismes à but non lucratif dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches. On va en apprendre plus sur le fonctionnement de la philanthropie à l'émission. Puis, dans un instant aussi, on va s'intéresser à l'agriculture urbaine avec la chargée de projet pour la recherche au laboratoire sur l'agriculture urbaine.
J'espère qu'elle a amené du manger.
J'ai faim, c'est l'heure de dîner en plus, hein?
Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses 5 pouces? Il est une très belle femme. Par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse, je change de carapace. Il est une très belle femme. Anima animus, en moi se cherche le plus. Je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes, oh milieu, sois toi-même. Être unique et précieux, sois toi-même. Oh mes femmes, elle est beau, il est belle. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que us. La yin est dans la yang, le yang est dans. Oh,
l'été. Arthur H. Il, elle.
J'aime beaucoup ça, animer Aime l'été. La seule chose que j'aime pas d'animer Aime l'été, Luc, c'est que c'est sur l'heure du dîner puis que ça repousse mon heure
on
de
dîner. On est déçus, Claudia.
Notre invité Claudia qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler du laboratoire sur l'agriculture urbaine. Luc est bien déçu parce qu'il pensait avoir droit
fromage
à un
grain,
snack ou quelque chose comme ça.
Parce que Anne Marinier nous a amené des cellules souches.
Ah oui, c'est ça.
Jusqu'à maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a offert une job.
Tout le gros line-up de l'émission. Attention, peut-être que je vais t'envoyer une plainte en cours, Luc, si ton site web n'est pas accessible.
Et il faudrait que j'aille un site web.
C'est ça, t'as pas de site web,
j'ai
hein,
pas de
toi?
Site web, donc il est pas accessible.
Claudia Thomé, oui, qui est avec nous en studio pour parler d'un sujet qui te fait de plus en plus jaser, mais depuis déjà quelques années, l'agriculture urbaine. Et pour les gens qui sont pas initiés, avant qu'on parle du laboratoire d'agriculture urbaine, j'ai l'impression que c'est un peu un mot fourre-tout, l'agriculture urbaine. On parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'autant de marché que de poules en ville, des gens qui élèvent leurs propres poules?
Des moutons dans le parc.
Oui, ben on parle beaucoup de choses quand on parle d'agriculture urbaine. On se focus surtout sur l'alimentation. On dit que c'est les produits, soit végétaux ou animaux, qui sont produits pour l'alimentation. Mais ça peut être aussi comme l'éco-pâturage, par exemple. On utilise des animaux pour préserver des espaces ou entretenir des espaces. Ça peut être la cultivation de la soie pour des vêtements ou pour des matériaux isolants. Donc, ça peut être plein de choses qui, dans le fond, c'est notre lien à la nature, puis l'alimentation.
Mais Claudia, est-ce que c'est une gimmick? Est-ce qu'en anglais, on dirait une fad, une mode, le goût du mois et, oups, après deux ans, on reste dans l'agriculture urbaine, mais là, des ruches sur les toits d'université, on passe à les fines herbes sur les balcons, où vraiment, on sent que chaque étape se structure et ensuite, on passe à une autre étape.
L'agriculture urbaine à Montréal, c'est pas un fad, je vous dirais. Ça fait très longtemps que ça existe. La ville de Montréal a entre autres mis en place des jardins communautaires dans les années 70.
C'est vrai.
Donc, ça existe depuis plusieurs années. Puis, à Montréal, c'est un mouvement qui est particulièrement fort puis citoyen. Donc, à la base, c'est vraiment le jardinage pour des objectifs sociaux. Donc là, on entre dans une nouvelle ère où maintenant, il y a des commerces, bien, il y a des producteurs d'aliments en milieu urbain qui ont un objectif commercial, mais avant, ce n'était pas le cas. C'était vraiment quelque chose de grassroots que les gens se sont approprié à travers les années. Là.
Est-ce que ça vient aussi un petit peu en réponse au problème de désert alimentaire? Est-ce que ça peut être une réponse au problème de désert alimentaire qui est un petit peu partout à Montréal?
Oui, bien, on s'intéresse à cette question-là. Il y a plusieurs opinions et il y a des recherches qui sont en cours pour essayer de voir si l'impact est vraiment réel. Parce que l'agriculture urbaine, c'est un peu comme le couteau suisse. Là. Tout le monde essaie de l'utiliser à plusieurs...
une belle image.
pour plusieurs objectifs. Puis, entre autres, ceux qui ont été démontrés empiriquement, les impacts démontrés, c'est surtout au niveau social. Donc, tout ce qui est vraiment intégration au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la santé pour les aliments, mais aussi le physique, les activités physiques, le loisir, l'empowerment des résidents. Mais la sécurité alimentaire, c'est pas quelque chose qui a été vraiment démontré pour le moment. Après, il y a des retombées plus économiques. On crée des emplois, par exemple.
Ouais.
On crée des emplois qui sont spécifiques pour des gens qui ont besoin d'être réinsérés économiquement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a le développement d'une économie locale qui se fait aussi quand on produit des choses. Il y a des marchés qui vendent les produits qu'on fait. Donc, tout ça a un impact économique. Puis finalement, il y a aussi des impacts environnementaux qui sont aussi en cours d'être évalués.
J'ai l'impression que c'est le plus gros argument pour l'agriculture urbaine, non? Le fait qu'on minimise les kilomètres de déplacement pour accéder à ce qui se retrouve dans notre assiette. Moi, je les entends, les arguments contre les déserts alimentaires, contre que ça crée de l'emploi, mais je pense que ce qui fait en sorte que moi, je préfère encourager des marchés locaux, c'est surtout le fait que ça limite l'empreinte écologique.
Oui, ça, c'est un des impacts qui est souvent cité. Après, on a aussi la question des îlots de chaleur, vraiment comme plus au niveau de l'environnement. Mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est vraiment une question saisonnière, là. Donc, les aliments qu'on n'achète pas d'ailleurs, on les achète pas d'ailleurs juste pendant l'été.
Je comprends.
Donc, l'impact est quand même limité, mais c'est sûr qu'il y a aussi un impact qui est comme un peu social à ce niveau-là, où les gens sont sensibilisés à l'environnement, puis justement à l'agriculture, puis ça crée des liens avec les milieux ruraux aussi. Quand on sait d'où vient notre nourriture puis comment elle est produite,
Puis ça sensibilise dans le sens où on tient moins pour acquis ce qui se retrouve dans notre assiette. Ouais. C'est un travail d'éducation qu'on fait aussi que qu'est-ce qu'on mange? Ben, y a un travail qui a été fait par des personnes dans notre alentour. C'est une autre partie que je trouve bien intéressante de l'agriculture urbaine. On en a parlé beaucoup, mais très peu du laboratoire, mais j'ai l'impression que vous avez déjà expliqué un peu en quoi, qu'est-ce que vous faites comme travail, mais c'est quoi votre mandat au laboratoire d'agriculture urbaine?
Mon mandat, c'est vraiment la recherche. Donc, le laboratoire est un espace de recherche et d'innovation en agriculture urbaine dans l'objectif d'aider la collectivité. Donc, nos recherches et nos projets, tout ce qu'on expérimente, l'objectif, c'est que ça puisse nourrir et développer d'autres projets en agriculture urbaine à Montréal. Donc, particulièrement, moi, ce que je fais, c'est vraiment de la recherche au niveau urbanistique. Donc, je m'intéresse aux questions de l'espace et puis comment...
Prenons quelque chose de concret, Claudia. Que vous faites et qui fait des petits ou qui...
Ça, c'est un projet qui vous fait triper en ce moment.
Ouais. Ben, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est un projet de recherche qui s'intéresse à comprendre pourquoi c'est difficile d'avoir des espaces pour cultiver à Montréal. Parce qu'une des difficultés du développement de l'agriculture urbaine, c'est justement que c'est très difficile d'obtenir des espaces. Mmh. Parce que Montréal est une ville quand même très dense par rapport à d'autres villes en Amérique du Nord. Et puis parce que l'espace est cher. Et l'agriculture urbaine n'est pas encore aussi rentable que d'autres usages qu'on peut en faire, comme l'habitation, le commerce, tout ça. Donc,
Mais est-ce qu'on a des chiffres qui démontreraient, par exemple, et je ne vous demande pas de donner des chiffres exacts, mais juste une idée là, qui démontrerait que même si c'est peut-être pas tout à fait rentable d'un point de vue très, très comptable dans la première année, là, que ça serait un investissement de faire plus de place aux endroits sur le plan urbanistique, là, aux initiatives d'agriculture urbaine pour les municipalités, pour les paliers gouvernementaux?
Oui, ben en fait, on a une recherche en cours. C'est pas moi qui l'a fait, mais on a une recherche qui est en train d'essayer d'évaluer ça. Puis justement, on veut donner plus d'arguments aux municipalités, aux décideurs pour justement choisir l'agriculture urbaine comme activité prioritaire.
Comme on utilise, par exemple, qu'on dit que chaque dollar investi dans la culture rapporte 3 ou 4 dollars aux villes. C'est un genre d'argument financier qui permettrait, j'imagine, de vous libérer des terrains pour favoriser l'explosion de ce type d'initiative-là.
Oui. Vraiment.
Est-ce qu'il y a des règlements qui nuisent également à la création d'initiatives d'agriculture urbaine?
Oui. Ben en fait, il y a plutôt un vide réglementaire dans la plupart des arrondissements de Montréal. Chaque arrondissement a le pouvoir de faire ses règlements d'urbanisme comme il le souhaite. Mm-hmm. Donc, il y a quelques arrondissements qui sont un peu plus proactifs, qui ont déjà mis en place des mesures de support pour justement favoriser l'émergence de projets. Mais il y a plein d'autres arrondissements qui n'ont rien et qui ont même des règlements qui peuvent empêcher la mise en place des projets.
On parle d'une trentaine de fermes à Montréal.
Ouais.
C'est un... Disons qu'on fait rarement l'équation, on associe rarement Montréal et fermes. Mm-hmm. Peut-être nous donner des images de grandeur de ce que...
Ça ressemble à quoi?
Oui.
Ouais. Ben, c'est très, très varié, en fait. Puis c'est ce qui fait la force du mouvement à Montréal, je crois. Ça peut vraiment partir des jardins qu'on a à la maison, des jardins personnels, puis ça peut aller jusque, par exemple, aux fermes Lufa, que tout le monde connaît. Mm-hmm. Quand on parle de fermes urbaines, je dirais pas qu'il y a une trentaine à Montréal, je dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de producteurs qui produisent soit pour la vente ou pour redistribuer les produits à des organismes communautaires ou à des banques alimentaires. Mais en tant que tel, il y a très peu qui ont une visée juste commerciale. Il y en a peut-être 5-6, là. Mm-hmm. Donc, la plupart des projets à Montréal, c'est vraiment soit des jardins collectifs, jardins communautaires ou des organismes qui font de l'agriculture urbaine dans un objectif social, que ce soit l'intégration sociale ou que ce soit vraiment la cohésion sociale dans un quartier, l'accès à une participation démocratique dans son quartier. Donc, ça peut être plusieurs choses, mais presque tous les acteurs s'entendent pour dire que c'est vraiment l'agriculture urbaine est un outil social.
Et ici pour rester.
Et pour rester,
à long terme. Ouais. Si on veut en apprendre plus, au-lab.ca ou encore cultivetaville.com pour en apprendre plus. Oui, Cultive ta ville, c'est un joli branding pour en apprendre plus sur l'agriculture urbaine. Mais je pense que Claudia nous a fait un bon tour d'horizon de ce projet-là et des nombreux projets d'agriculture urbaine. Merci d'être passée en studio aujourd'hui, Claudia.
Ça me fait plaisir.
Bon appétit.
Merci.
Les enfants. feu en sautant à l'envers. La tête en bas, c'était pas des paroles en l'air.
La chemise, Zebda.
C'est très drôle, c'est très très drôle parce que moi je suis tout animé, je suis tout heureux. Puis là, moi je vois pas Kevin étant aveugle, puis je suis certain qu'il trippe comme moi. Puis là, je lui demande, est-ce que ça a bien vieilli? Non.
Non.
Et moi, là, il me dit, moi là, ce genre de musique-là, ça me met en. Et là, il dit, moi, la musique qui rend heureux, là, j'aime pas ça.
Je sais, ça fit pas bien avec le titre de l'émission Aime l'été, qui est la continuation de Aime la vie. J'aime la vie pareil, j'aime juste pas la musique.
Excellent choix, Maurice.
Joyeuse, mais tu vois, ça fait qu'on est complémentaires en animation, Luc. On termine cette émission-là en beauté, en s'entraînant avec Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope. On va parler donc de philanthropie ensemble. Bonjour, Madame Bouchard.
Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour, Monsieur Breton.
Karen, musique heureuse ou musique nostalgique, mélancolique, vous, dans votre iPod?
Définitivement heureuse.
Bon.
C'est correct, je vous en tiendrai pas rigueur. On trouvait très intéressant le mandat et la mission de la Fondation Québec Philanthrope, qui est assez originale. Est-ce que vous pouvez nous en dresser un portrait rapidement?
Mais avec très grand plaisir. Écoutez, la Fondation Québec Philanthrope, qui a été la première de 10 fondations communautaires au Québec il y a maintenant 30 ans, fait partie du grand réseau tout à fait unique des fondations communautaires, non seulement à travers le Canada, il y en a plus de 191, mais au monde, près de 1900. Et quelle est cette mission, ce mandat? En fait, c'est de soutenir l'engagement dans la communauté. Comment on fait ça? Quelle est la mission de la Fondation Québec Philanthrope? C'est de promouvoir la philanthropie pour le mieux-être de la communauté en soutenant toutes les causes qui existent. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toute personne, toute organisation, toute corporation qui veut poser un geste significatif, soit par un don de temps, un don d'expertise, un don d'argent, va appeler la Fondation Québec Philanthrope, qui est désignée pour notre communauté, la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches. Et au fur et à mesure qu'on échange avec les gens, ils vont très souvent décider de créer leur propre fondation privée, en quelque sorte, un fonds philanthropique.
Mmh.
Aujourd'hui, la Fondation Québec Philanthrope en gère plus de 680, ce qui nous a permis, voyez-vous, l'année dernière, de remettre toujours au nom des créateurs de fonds tout autant de leur vivant qu'après leur décès. On remet à chaque année de l'aide financière et en 2017, on aura remis plus de 2,7 millions à près de 500 OBE. Et ces gens-là décident de soutenir donc une ou plusieurs causes. Donc, par exemple, vous vous sentez très concerné par une ou plusieurs causes, on va pour vous, avec vous, développer votre fonds philanthropique, votre fondation, et à tout moment, nous assurer de pouvoir verser l'aide financière que vous souhaitez distribuer ou que certaines personnes, en se joignant à vous, vont nous permettre de consolider. Donc, tout à fait comme si vous aviez votre propre fondation privée.
Mais est-ce que vous êtes des coachs ou vous êtes un peu comme Centraide, une fondation qui est ramassée et redistribuée?
Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner les gens, on va gérer techniquement pour eux leur fondation. D'abord, on inspire le geste du don, mais on ne fait jamais nous-mêmes de levée de fonds. Ce sont les gens qui le font et on va redistribuer en leur nom. Alors, c'est vraiment techniquement, de toutes les manières possibles, on va les accompagner lorsqu'ils font de la levée de fonds. On va s'assurer de laisser connaître leur engagement. On va également accompagner les gens dans leur désir de faire un don, ce qu'on appelle un don planifié. Mm-hmm. Un don planifié, il peut s'agir d'un don testamentaire, don de police d'assurance vie, actions, obligations, REER, etc. Alors, de toutes les manières possibles, on va s'assurer de consolider leur désir d'entraide en action et les soutenir, faciliter leur désir de soutenir les autres.
Peut-il y avoir des causes farfelues? Parce que moi, j'ai une idée de partir un organisme contre l'usage de la mélamine sur les comptoirs de cuisine. Est-ce que parfois, vous pouvez justement dire non, ça, on s'occupe pas de ça, parce qu'on a des valeurs, des guidelines moraux?
En fait, toutes les causes qui sont soutenues sont celles qui sont reconnues par l'ARC, l'Agence du revenu du Canada.
Okay.
Donc déjà là, l'Agence du revenu du Canada fait un filtre, je vais le dire comme ça,
ouais.
De ce qui est acceptable ou non.
Ça me
Et par ailleurs, on doit comprendre que au-delà de la permanence qui est consolidée de 10 personnes, on a au-dessus de nous un conseil d'administration composé de 15 personnes extrêmement dévouées, dont Margaret Delisle est présidente. Au-dessus du conseil d'administration, au bureau des gouverneurs présidé par M. Alban Damour, l'ancien président du mouvement des Jardins, mais autour de lui, maire de Québec, maire de Lévis, Mgr Lacroix, rectrice de l'Université Laval, etc., lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, non seulement qui agissent à la caution morale de la Fondation, mais vont désigner des administrateurs et se portent garant de ce qu'on fait. Et à côté de deux, 8 comités composés, chacun d'une dizaine de personnes, comités très spécialisés, de gens extrêmement expérimentés. Donc, environ 120 bénévoles de notre communauté qui s'assurent.
Oui, il y a des crans de sûreté, là. Ouais.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est dans le temps que la Fondation développe son œuvre. Hein. Les fonds philanthropiques, les fondations qui sont créées, pour la plupart, vont nous survivre. Et c'est l'héritage, ensemble, qu'on consolide, qu'on construit pour notre communauté. On aide dans le moment présent.
Ce que vous appelez le don planifié?
Ben, le don planifié, c'est que quelqu'un qui veut faire un don important le planifie, et le don testamentaire, c'est un exemple, le don de police d'assurance vie. Mais de notre côté, effectivement, de pouvoir créer un fonds philanthropique planifie dans le temps nos intentions de soutien. Effectivement, c'est vraiment accroché à une planification. Et je dirais un héritage, un important héritage qu'on veut laisser à notre communauté. Voyez-vous, aujourd'hui, la fondation qui gère plus de 80 millions, avec le temps, ça se consolide. C'est ça qu'on va laisser au fur et à mesure aux générations qui vont venir pour aider tous les OBNL, tous les OBE de notre communauté qui, comme on le sait, tiennent à bout de bras.
Est-ce qu'il y a des régions qui n'ont pas de fondation, un peu comme la vôtre?
Oui, effectivement, c'est subdivisé de manière régionale et nous, n'importe quelle personne ou OBNL à travers le Québec pourrait nous interpeller.
Ah oui, OK.
Oui.
Même si on n'est pas dans 0312.
Absolument, okay. Absolument. Mais évidemment, on va les référer vers la fondation communautaire de leur région.
Okay, je comprends.
Ils peuvent toujours, bien sûr, travailler en étroite collaboration avec nous.
Ouais.
Et c'est très inspirant parce que si on se projette un peu à Winnipeg, la fondation qui a plus de 100 ans, gère aujourd'hui plus de 900 millions, à Vancouver, c'est 1,3 milliard, et 3,5 % de ça reversé à chaque année. Ben, c'est un important coup de pouce pour notre communauté. Hein. Mais je vous dirais qu'en l'axe central de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait, c'est vraiment inspirer le geste du don.
Mm-hmm.
pour tous un chacun, dont de temps, dont d'expertise, dont d'argent, parce que c'est au cœur même de ce qu'on veut transmettre aux gens qui sont près de nous.
Et pour conclure, est-ce que le don ou la philanthropie, c'est à la portée de tous les budgets, ou on a souvent l'impression que la philanthropie, c'est réservé pour les très gros portefeuilles?
C'est une question tellement importante et bien sûr, la réponse est que oui, c'est à la portée de tous. De manière technique, pour chacune des fondations privées ou des fonds philanthropiques, les gens peuvent décider de créer un fonds, mais n'importe qui dans son salon peut décider de donner 5 $ pour l'une ou l'autre de ces fondations. Également, quelqu'un n'a pas d'argent, il peut donner de son temps, il peut donner de son expertise. Hein? Mm-hmm. Et la philanthropie, pour moi, dans ma perception des choses, ce n'est pas seulement la personne qui donne, mais c'est aussi la personne qui reçoit. C'est une boucle. Hein? C'est vraiment cette humanité à laquelle on veut s'associer, ces belles valeurs que nous portons tous en nous et qui font une différence inouïe dans le quotidien de tous.
D'ailleurs, Kevin m'a offert un lift après l'émission et je l'accepte avec toute ma gratification possible.
Puis ben toute notre gratitude aussi à vous, Madame Bouchard, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui pour conclure cette belle émission. C'est fort apprécié.
C'est un grand plaisir. Un très bel été à tous.
Bonne continuité.
Québecphilanthrope.org pour en apprendre plus. L'émission est très chargée, donc on n'aura pas le temps de faire beaucoup de brèves pour le Babillard, mais peut-être vous mentionner un article du collaborateur du Devoir, Philippe Renaud, qui nous parle de Oshiaga, qui va avoir lieu en fin de semaine du 3 au 5 août prochain. Il nous donne ses suggestions à voir absolument, dont Blondie, qui sera samedi au sein de la Rivière.
Blondie.
Ouais, ça ne nous rajeunit pas, hein, Blondie. Puis également, SEPA qui sera vendredi. Oui, SEPA, hein, en deux mots, qui sera vendredi à la Scène des Arbres. Mais moi, le spectacle à ne pas manquer. The National, dimanche, j'y serai. Merci, Luc, pour la co-animation.
Un plaisir.